Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Jean-Baptiste Bergès, aujourd'hui un témoin, un grand témoin, défi du quotidien que nous connaissons bien.
Nous la connaissons bien, elle s'appelle Camille Gousset, elle a été journaliste à Vivre FM pendant quelques mois. Et aujourd'hui, nous lui donnons la parole, elle va venir nous raconter son histoire, son parcours de vie et surtout nous expliquer comment elle a réussi à réaliser son rêve. Alors son rêve, le rêve de cette jeune femme, c'était de passer son permis de conduire et de devenir propriétaire d'une voiture. Mais lorsqu'on est en fauteuil roulant, comme Camille, ça devient vite difficile de passer son permis et d'acheter un véhicule adapté à son handicap.
Et pourtant,
Camille a eu la bonne idée de mobiliser les internautes et un véritable élan de générosité s'est constitué autour de son projet. On en parle sur Vivre FM.
Ça, c'est parce qu'elle est sympa qu'elle a réussi. On va tout savoir sur Camille Gousset à partir de maintenant sur Vivre FM et jusqu'à 13h.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Et c'est vrai qu'elle est très sympa. Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin.
Merci beaucoup d'être sur Vivre FM, d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, vous connaissez bien la maison puisque vous avez été stagiaire à la rédaction pendant quelques mois. Et vous êtes même fait remarquer puisque vous avez interpellé le président de la République, François Hollande, lors de la Conférence nationale du handicap en 2014. Vous avez été la seule journaliste présente à pouvoir interviewer le président de la République. Et votre photo s'est même retrouvée sur le site de l'Élysée.
Exactement, pendant toute la journée.
Une sacrée expérience, non ? Racontez-nous comment vous avez réussi à l'interpeller alors qu'aucun journaliste n'avait le droit de lui poser de questions.
Ben, en fait, je suis passée entre les mailles du filet. Des fois, être en fauteuil, surtout lors d'une journée comme ça, ça a des avantages. Parce que les chefs de la vigilance ne m'ont pas repéré. Du coup, ben, je suis passée entre les mailles du filet. Je suis restée dans un petit coin et puis j'ai pu faire mes petites interviews. Donc d'abord avec les secrétaires d'État et les ministres qui étaient là, qui étaient intervenus pendant la journée, la matinée. Et puis ben, d'un seul coup, je me retourne et ben, le président était là.
Il y avait le président,
donc voilà, j'ai pu...
Alors vous avez sorti votre micro.
J'ai sorti mon micro qui était tout prêt.
Vous avez foncé sur M. Hollande. Et qu'est-ce que vous lui avez posé comme question ?
Bonne question. Si c'était une par rapport à la AAH et au fait que quand on est en situation de handicap, qu'on est en couple, la personne qui reçoit la AAH se la voit supprimer si son conjoint travaille. Et il venait de faire une allocution sur cette question et voilà, je voulais une confirmation. Donc voilà, et puis il était tout content parce que on lui avait dit qu'il n'y avait pas de journaliste en situation de handicap. Donc qui était présent à cette journée, donc je lui ai prouvé le contraire.
Alors ce qui est paradoxal quand même, c'est que votre photo avec le président de la République s'est retrouvée sur le site de l'Élysée. Et pourtant, vous, en matière de travail, d'accessibilité au travail et de discrimination à l'emploi, vous êtes la première concernée, puisque depuis votre stage à Vivre FM, c'est assez compliqué pour vous de trouver du travail malgré votre Bac plus 5, votre formation en journaliste. Qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous postulez au sein de sociétés de production ou de journaux, hein, puisque vous avez travaillé en télévision aussi et dans les journaux ?
Eh ben, en fait, j'ai pas énormément de retours déjà, et les seuls retours que j'ai, c'est ben, enfin, il faut que je fasse, que je montre, que je prouve que malgré mon fauteuil, en fait, je peux faire des sujets comme tout le monde, comme tous les journalistes, je peux me déplacer, je peux, voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ne pensent pas qu'une personne en situation de handicap et encore moins en fauteuil roulant soit capable de faire des reportages, des sujets comme tout journaliste.
Donc vous sentez vraiment la discrimination, vous pensez que c'est vraiment le votre
fauteuil. Ça fait partie, je pense pas, enfin voilà, je vais pas tout mettre sur le compte de mon fauteuil quand même, il y a un contexte qu'on connaît, il y a peut-être ma personnalité, enfin voilà, qui convient pas pour tous les journaux, mais je pense que le handicap, oui, fait grandement partie de mon souci parce que déjà, donc il y a parce que les employeurs ne me considèrent pas comme une journaliste, mais d'abord comme une personne en situation de handicap, et surtout aussi sur l'accessibilité en fait, des locaux, tout bêtement. La plupart des sociétés de production pour la télé sont dans des vieux immeubles, donc avec des escaliers en colimaçon, voilà, des étages, etc. Donc je ne peux pas y aller. Je me souviens d'un des stages que j'avais fait dans une société de production à Boulogne. Là, je leur avais prouvé. Enfin, là, j'étais venue. J'ai des rampes mobiles que je trimballe avec moi pour tout ce qui est marche. Je peux monter jusqu'à 2 marches quand même avec ces rampes. Donc, j'étais venue. Toute la rédaction se passait au premier étage, mais il y avait une partie d'une autre rédaction qui était en rez-de-chaussée. Donc je leur dis, bah écoutez, si vous voulez, enfin voilà, je peux toujours travailler au rez-de-chaussée, pas de problème. Oui, mais il y a une grosse marche, il y avait deux grosses marches. Et je leur dis, bah pas de souci, moi j'ai ma rampe, hop, je dégaine ma rampe. Et bon, j'avoue que là, moi, je me suis fait un peu peur, mais j'ai forcé, je voulais vraiment leur prouver que je pouvais passer. Et effectivement, j'ai pu passer cette marche avec ma rampe, mais après, bah, il n'y avait pas de toilette adaptée. Donc, j'ai pas pu faire le stage dans les locaux, j'ai fait en télétravail. Mais bon, voilà, moi, c'est pas mon objectif de vie de travailler de chez moi. Surtout dans ce métier, l'idée, c'est quand même d'être en contact avec les gens, avec la rédaction et tout. Donc, j'ai fait un mois de stage avec eux, mais ils voulaient me garder. J'aurais dit, bah écoutez, moi, non, ça me convient pas. Enfin, me garder pour un autre stage. Hein.
Alors aujourd'hui, vous cherchez toujours du travail. On reviendra sur votre cursus, sur votre formation, sur vos projets, puisque l'accessibilité des personnes handicapées à l'emploi, c'est un peu votre cheval de bataille pour 2017. Vous avez envie de vous réorienter dans ce sens. D'abord, on va parler de ce projet pour lequel on vous a invité aujourd'hui, Camille, cette voiture, cette tuture, comme vous l'appelez. Et il y a eu un formidable élan de générosité qui s'est créé autour de vous et sur Internet. Déjà, c'était quoi? C'était vraiment un rêve d'enfant d'avoir cette voiture, de conduire? Pourquoi c'est important pour vous, Camille?
Ah oui, moi j'ai toujours aimé la voiture. De toute façon, toute petite, avec mon père, je regardais les Grands Prix de Formule 1. Enfin voilà, j'ai toujours adoré la voiture. Et puis mon fauteuil, je l'ai eu à 5 ans et je pense quand même que j'ai ça dans le sang. Parce que mon tout premier fauteuil, quand on m'a mis dedans, j'ai tout de suite su le manier à la perfection. Je passais à 1 cm des obstacles ou des portes. Donc je pense que le pilotage, j'ai un peu ça en moi.
Le goût du risque.
Le goût du risque, ouais. Et voilà, et du coup, à 18 ans, bah, j'ai tout de suite voulu passer mon permis de conduire. Bon, j'ai dû attendre un petit peu quand même, parce qu'il faut trouver l'auto-école accessible. Faut avoir les moyens, enfin voilà, comme tout le monde. Et du coup, il me semble que j'ai dû commencer à 23 ans. Enfin, entre-temps, j'avais cherché, en fait, je me renseignais sur savoir comment, si je pouvais déjà, parce que je savais pas, j'avais envie, mais... Est-ce qu'avec mon handicap, mes difficultés physiques, je pouvais conduire? Donc je me suis renseignée, j'ai commencé les démarches donc, auprès d'ergothérapeute à l'hôpital Saint-Maurice, qui m'a dit, bah, écoutez, je sais pas, on va voir, vous savez, ça va être long et compliqué, donc ça j'adore parce que...
Ça vous fait sourire en tout
cas
quand
vous dites
ça.
Ouais, ça me fait sourire parce qu'à chaque fois, les personnes qui sont censées être là en premier pour nous aider, pour nous... Enfin voilà, on sait que ça va être dur et compliqué. C'est l'histoire de notre vie, donc il n'y a pas besoin de nous le rabâcher. Nous, on fait appel à ces professionnels justement pour nous aider, pour nous motiver, pour être là, pour nous seconder, quoi. Donc voilà, je lui dis, bah oui,
vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là forcément pour vous encourager au début,
bah,
plus pour vous décourager.
Pas forcément nous décourager, mais nous mettre vraiment en face de la réalité et voilà, nous dire...
Et ils ont peur pour vous, enfin, ces gens-là, quel regard vous portez sur ces personnes qui devraient vous aider, qui finalement vous mettent le moral à zéro si vous n'êtes pas assez forte?
Ouais,
ça pourrait se terminer comme ça.
Ça pourrait se terminer comme ça et je sais pas s'ils ont peur pour nous, mais je pense que déjà eux se demandent en fait si je suis capable de le faire. Je pense que même eux, professionnels, se disent « Waouh, passer le permis, elle est en fauteuil, elle a de la spasticité, donc des rétractions au niveau des bras et tout ». En fait, parce qu'après, elle s'est mise à chercher avec moi sur Internet, donc je me demande si elle savait tout simplement, en fait.
Donc, oui, peut-être que c'est la première fois qu'on lui
oui,
posait
voilà,
la question, qu'elle
était
confrontée à...
Peut-être,
donc,
mais...
Donc, vous avez pu passer le permis de conduire.
Ouais.
Alors, comment vous avez fait
Alors, en fait, donc moi, pour que tout le monde comprenne, moi, je conduis dans mon fauteuil, donc je ne change pas de siège. Donc, il me fallait une voiture assez haute à l'intérieur de la voiture pour pouvoir passer. Et il y a très très peu d'auto-écoles en fait qui ont ce type de véhicule. Donc moi j'habite dans le Val-de-Marne, donc dans le Val-de-Marne il y en a pas. Et donc quand on a cherché avec l'ergothérapeute, on a trouvé une association à Versailles qui s'appelle le CEREM, donc qui est une association en fait qui gère toutes ces questions de mobilité et de handicap. Et donc ils ont une auto-école et un véhicule totalement adapté pour tout type de handicap. Donc, il a fallu que j'aille conduire jusqu'à Versailles quand même.
D'accord. Et donc après, c'est vous avez dû passer le code, puis
oui, j'ai passé
le
code. En fait, c'est un permis comme les autres. Il y a aucune adaptation au niveau théorique du permis. Je passe le code comme tout le monde. Pour la petite histoire en plus, pour le jour de mon code, la question sur laquelle, une des questions sur lesquelles je tombe, c'est sur la place handicapée quand même.
Ah. Et vous avez bien répondu.
Eh ben oui, mais j'ai été obligée de mentir parce que moi, concrètement, j'ai le droit de me garer sur cette place. Mais là, j'ai dû dire que non, j'avais pas le droit, c'était pas bien. Donc ça m'a bien fait rire.
Donc vous réussissez le code, le permis, et puis après, il vous faut une voiture. C'était ça la difficulté.
C'était ça la difficulté. Et en fait, j'avoue, j'en avais quand même pas conscience à ce point-là. Quand j'ai débuté, moi, je me suis dit, oh, ça va aller, je vais avoir mon permis. Après, je vais faire les démarches, j'aurai les sous. Enfin, voilà. J'avais conscience que c'était beaucoup plus cher qu'une voiture normale, mais pour moi, j'allais y arriver sans problème, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu dans le bec dans l'eau parce que ça coûte cher. Donc, moi, c'est mon véhicule au total, véhicule plus aménagement, revient à 73 000 euros.
D'accord.
Donc,
oui,
voilà.
c'est une sacrée somme. Parce que du coup, c'est une voiture qu'il a fallu aménager, c'est ça ?
C'est ça. Donc, le principe, en fait, c'est qu'on achète une voiture normale, qui sort d'usine, qui est toute belle, toute neuve, et on la renvoie pour la détruire et la reconstruire du sur-mesure, en fait. Donc, comme ça n'intéresse pas les gros concessionnaires de faire des voitures sorties d'usine déjà adaptées, on est obligé d'avoir une voiture lambda.
Donc là, c'est quoi l'aménagement que vous avez effectué
Moi, sur celle-là, donc, j'ai une Skoda Yeti. Donc, c'est une entreprise à Bordeaux, l'entreprise ACA, qui aménage ce type de véhicule. Ce véhicule-là, c'est la seule entreprise en France. Et donc c'est un petit, comment on pourrait dire, une petite citadine un peu 4x4, ça fait un peu voilà, ça fait un petit 4x4. Et donc je rentre par le coffre et je vais jusqu'au volant, plaque, il y a un système au sol qui fixe le fauteuil, et après j'ai une boule au volant pour pouvoir tourner le volant avec mon bras gauche, et avec mon bras droit en fait j'ai un petit levier, quand je pousse sur le levier en fait ça actionne le frein. Donc, c'est un système mécanique. Et quand j'appuie, comme si je voulais ouvrir une porte, par exemple, comme une poignée de porte, ça accélère la voiture. Donc, c'est une voiture toute automatique, donc pas de vitesse à passer. J'ai juste un petit boîtier pour faire marche avant, marche arrière, enfin, comme une voiture automatique.
D'accord, et pour rentrer, il y a une rampe qui...
Il y a une rampe, tout est automatique, en fait. J'appuie sur je déverrouille ma voiture et j'appuie longtemps sur un petit bouton et ça, tout s'ouvre automatiquement, tout se ferme automatiquement. Et voilà.
D'accord, donc le financement, c'est surtout pour l'aménagement aussi. Pour la voiture et pour l'aménagement, ça doit...
Alors, c'est principalement pour l'aménagement, parce que, bon, acheter une voiture, après, je suis comme tout le monde, il faut bien que j'achète aussi ma voiture. J'avais pas comme objectif principal qu'on me finance entièrement tout mon projet. Donc, j'ai déjà, pour commencer, il faut faire un dossier de financement à la MDPH. Comme toute aide à l'aménagement qu'on veut. Donc, il y a 5000 euros qui sont donnés maximum via la prestation de compensation du handicap. Et après, on peut faire un dossier de fonds de compensation du handicap, où là, du coup, c'est les personnes de la MDPH qui vont pour nous demander des financements au conseil général, au conseil régional, à la CPAM, et je ne sais plus, il y a deux ou trois autres organismes.
Alors Camille Gousset, restez avec nous dans un instant, on reviendra justement sur les différentes étapes et les différents financements, et puis surtout sur la générosité des internautes qui vous ont quand même aidé à financer une partie de votre projet. Vous savez ce que c'est la radio, il y a des pauses tout le temps. Donc là on va marquer une courte pause et puis on revient juste après, à tout à l'heure.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM,
Jean-Baptiste Bergès.
Et le grand témoin aujourd'hui s'appelle Camille Gousset. Vous la connaissez bien puisqu'elle a été journaliste pendant quelques mois sur Vivre FM. D'ailleurs, ça fait quoi d'être de l'autre côté, d'être interviewée, Camille ?
Ça fait bizarre, je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude. C'est une de mes premières interviews.
Bon, vous en sortez pas trop mal quand même,
bon, ça va.
Même très très bien. Alors vous nous parlez de cette voiture, c'était votre rêve de passer le permis et d'acheter une voiture, mais une voiture adaptée à votre handicap, puisque je rappelle que vous êtes en fauteuil, vous êtes handicapé moteur. Vous avez recueilli de l'argent parce que c'était un projet qui coûtait très 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 cher. Il y a eu plusieurs aides. Alors vous nous avez parlé de la MDPH d'abord.
Donc en fait, c'est les premières actions à faire, c'est demander les subventions publiques auxquelles on a droit en tant que personne handicapée. Donc c'est via la MDPH, donc la prestation de compensation du handicap, c'est l'aide au véhicule, à l'aménagement du véhicule, qui est à un maximum de 5000 euros. Donc après, bon, 5000 euros sur moi, mais 73 000, voilà, donc il faut continuer après.
C'est pas mal, mais
il en manque. Donc bon, sachant que de toute façon, ils aident à l'aménagement du véhicule, donc pas, de toute façon, pas à 73 000 euros. Donc moi, l'aménagement du véhicule, c'était 41 000 euros.
Et ça, il faut déposer un dossier, j'imagine, c'est compliqué pour peut-être donner des conseils à nos auditeurs.
Eh ben, c'est comme toute demande pour la MDPH, pardon, c'est faire un dossier. Donc c'est le même dossier que tous les dossiers de demande de financement. Donc il y a une petite coche pour l'aide à l'aménagement du véhicule. Donc il faut fournir deux devis comparatifs de l'aménagement.
Il ne faut pas s'y connaître nécessairement en mécanique, par exemple. On n'est pas obligé de...
Non, ça devrait aller. Ça. Pour ça, y a pas, on ne nous demande pas de faire des tests mécaniques. Non, c'est oui, donc déposer des dossiers, remplir... Après, moi, je me suis fait aider quand même pour être sûr de rien louper et que mon dossier soit le mieux possible. Je me suis fait aider par une assistante sociale au service de Sequoia à Saint-Maurice, là où je suis suivie. Après, bon, voilà, y a différentes personnes qui peuvent vous aider. Il faut rédiger un projet de vie, donc expliquer son projet. Moi, j'avais monté tout un dossier voilà, pour expliquer qui j'étais, pourquoi je voulais cette voiture.
Et justement, pourquoi c'était important pour vous d'avoir cette voiture ?
Pour moi, c'est synonyme d'autonomie totale, de pouvoir... Alors, c'était d'un point de vue professionnel, ben, en tant que journaliste, voilà, pouvoir... prouver à tous les employeurs que bah, je peux me déplacer comme tout le monde, voire même plus que les autres, si ça se trouve. Parce que ça pouvait être... voilà, en fait, je voulais couper l'herbe sous le pied aux employeurs pour qu'ils n'aient plus d'excuses, en fait. Voilà, je voulais leur dire, bah voilà, non, si, je peux me déplacer, j'ai ma voiture, mon fauteuil roulant, bah voilà, il roule bien. Donc ça, c'était une des raisons. Et après, personnellement, bah, c'était... Moi, comme je disais au début, j'ai toujours aimé rouler, donc, que ce soit en fauteuil ou en voiture. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Donc je ne me voyais pas sans voiture.
Et puis être autonome, comme vous l'avez dit. Alors du coup, la MDPH vous accorde 5000 euros. Il vous manque quand même une certaine somme pour pouvoir acheter la voiture et aménager. Comment vous avez fait ?
Donc après, le dossier de fonds de compensation du handicap, toujours en lien avec la MDPH. Là, les personnes qui suivaient mon dossier m'ont vraiment bien accompagné, bien aidé, ont vraiment... bien vendu mon projet en fait, et donc au total avec donc les 5000 euros, j'ai eu 28 800 euros quand même de l'aide de la MDPH, de l'État en général, des aides publiques auxquelles j'avais droit. Donc après 28 800 euros, donc il reste toujours les deux tiers à trouver.
Mais on vous dit quoi ? On vous dit... C'est vrai qu'on vous dit débrouillez-vous pour le reste ?
Ah bah oui.
On vous le dit comme ça ?
Bah, pas comme ça, mais à peu près. Enfin voilà, c'est ce que... Enfin, je pense que je suis pas la seule à qui ça va. Ça va parler, mais quand ils savent plus trop... eux, ils sont dans leur petit papier, dans leurs règles. Et puis après, une fois qu'on dépasse, ils savent plus, quoi.
Alors, vous êtes débrouillé, du coup, quand même, pour trouver le reste. Et quelle a été votre idée ?
Mon idée, j'avais entendu parler de crowdfunding, donc de financement participatif sur Internet. Donc, c'est quelque chose qui se développe depuis pas mal d'années maintenant. Donc, ça a commencé pour la musique, pour les gens qui veulent faire produire leur CD. Donc ça a commencé, donc c'était My Major Company pour ne pas les citer. Après, il y a plein d'autres sites qui sont nés au fur et à mesure. Et donc moi, j'ai fait un petit comparatif, je me suis renseignée sur savoir quelle plateforme allait être la mieux pour mon projet. Donc j'avais le choix, donc soit par le crowdfunding, donc il y a certaines plateformes du coup en fait où c'est on dépose notre projet et il faut trouver des contreparties pour que les personnes qui veulent nous donner de l'argent aient quelque chose en retour. Ou alors des cagnottes. Donc ça, ça se développe plus maintenant, les cagnottes. Moi, à l'époque, il y avait quand même plus d'autres plateformes. Donc moi, je suis partie sur l'autre plateforme. Je me suis dit que c'était aussi pas mal que... j'ai eu du mal déjà à me lancer là-dedans. J'avais cette idée de projet, de crowdfunding, mais je me suis dit, quelle légitimité j'ai, moi, Camille Gousset, personne... j'étais pas connue.
C'est ça, c'est pas facile de demander de l'argent aux autres, enfin aux internautes.
Surtout pour un projet personnel en fait, parce que ceux qui demandent pour un CD, pour faire de la musique ou c'est un projet professionnel, ils ont quelque chose à donner après en échange, ils peuvent envoyer un exemplaire de leur CD ou quoi. Moi j'avais rien, c'était
vous
pas pour...
Vous pouvez prendre les internautes en voiture.
Oui, je peux. Mais je me voyais pas faire le tour de la France non plus en
donc
voiture.
Donc au départ, vous aviez une petite appréhension.
Il y a une appréhension.
Qu'est-ce qui vous a décidé du coup ?
Je me suis dit que c'était... Enfin, j'avais pas le choix en fait. J'allais pas sortir 20 000 euros de mon chapeau, donc j'avais pas vraiment le choix. Et puis c'était une... Enfin, je sentais que c'était quand même le truc à faire, que c'était une bonne idée. Et voilà, donc après, il fallait sortir un peu ses tripes pour expliquer sa vie... Voilà, pourquoi ce projet, c'était compliqué aussi de parler de soi, hein, c'est pas un exercice facile. Donc j'ai déposé mon projet sur une plateforme.
Et vous avez bien fait parce qu'il y a eu un réel engouement des internautes. Vous avez récupéré combien
J'ai récupéré 12 000 euros en 50 jours.
D'accord. Et c'était votre objectif, c'était quoi ?
Je l'avais mis beaucoup plus bas, moi. Mon objectif principal, c'était 8 000 euros. Et j'ai explosé mon compteur.
D'accord. Donc j'imagine que déjà, vous étiez heureuse puisque vous aviez pu du coup acheter votre voiture et l'aménager. Et comment vous expliquez que vous avez réussi à toucher le cœur des internautes comme
Les retours que j'ai eus, c'est que j'avais bien présenté mon projet, en fait. Que les gens... j'avais fait une petite vidéo avec une amie journaliste aussi qui était venue me filmer pour montrer mon quotidien, en fait. Montrer en quoi cette voiture me serait utile, pourquoi je peux pas. Donc, entre autres, pour l'accessibilité des transports aussi, hein, tout bêtement. Et puis le temps que ça prend de prendre le RER, de se déplacer, de se rendre compte que l'ascenseur il marche pas, donc demi-tour. Enfin voilà, tout ça je l'ai expliqué, je l'ai montré, j'ai montré des photos de la voiture, de comment ça allait être fait, et j'ai expliqué aussi le financement, parce que en fait quand on demande de l'argent, il faut quand même expliquer qu'on leur demande pas tout, de financer tout. Parce que voilà, il faut aussi motiver les gens en leur disant écoutez, j'ai déjà tant d'argent, je vais participer moi-même, je recherche d'autres mécènes, d'autres trucs à droite à gauche.
Et après, chacun met une somme, ça peut être une petite somme, c'est après l'accumulation de tout.
Ah, bah oui, hein? Ça va de 1 euro à. Il n'y a pas de limite en fait. Donc moi, j'ai eu beaucoup de. Enfin, en fait, j'avais du coup fait des paliers et proposé des contreparties. Et en fait, à la fin, je me rends compte que la plupart des gens ont donné sans contrepartie, ont donné de l'argent sans pour autant vouloir quelque chose en retour. Et c'est ça aussi qui m'a touchée. C'est la générosité des gens qui me connaissent pas ou de loin ou par amis d'amis et qui disent on va l'aider à faire ce projet sans rien attendre en retour. Et moi, ça a été un vrai déclic de se faire ce projet. En fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de bien et que les gens voulaient m'aider et que mon projet c'était un bon projet, que j'avais des bonnes idées et que fallait pas que je m'arrête en si bon chemin.
Vous m'avez confié tout à l'heure hors antenne que ce projet, cette expérience, vous avez fait grandir.
Ouais.
En quoi elle vous a fait grandir ?
C'est ce que je vous dis, ça m'a débloqué en fait. Moi je suis quelqu'un d'assez timide quand même, d'assez réservé. Et d'avoir fait ce projet, d'avoir vu cet engouement, tous ces gens qui me connaissent de près ou de loin, mais qui se disent on va aller. Enfin, je sais pas, ça m'a. Je me suis dit, je suis légitime. Enfin, en fait, ça m'a donné une légitimité. Je sais pas, je pourrais pas expliquer vraiment, mais ça m'a quand même. Ça m'a délivré. J'ai eu un petit déclic.
Ça a donné confiance en vous.
Ouais, voilà, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Et voilà.
Ça vous a délivré, libéré. Vous êtes pas la reine des neiges, mais la reine de la voiture maintenant.
Exactement.
Merci Benjamin Moreau pour cette intervention.
Je vois que l'humour est toujours là.
Alors qu'est-ce que vous avez ressenti, Camille Gousset, lorsque vous êtes montée pour la première fois dans cette voiture ?
Plein de sentiments différents. Donc en fait, je suis allée pour faire les installations. Je suis allée une semaine à Bordeaux en début septembre pour pouvoir placer les aménagements pile poil au bon endroit. Et donc du coup, au fur et à mesure de la semaine, je suis montée plusieurs fois dans ma voiture, mais quand il m'a dit c'est bon, viens, on va faire le premier essai, je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que j'ai mon permis depuis 3 ans et demi, mais depuis j'avais pas pu reconduire parce que
vous n'aviez pas de voiture adaptée.
Voilà. Donc j'avais pas repris d'heure de conduite avant, donc je me suis dit oh là là, comment ça, je suis un danger potentiel. Et en fait, ça a été. Enfin, j'ai eu un petit coup de flip quand même au début. Donc, j'ai fait un petit trajet. J'ai dit je vais rentrer. Hein, on fera ça demain. Hein. Et puis, le directeur de la société m'a proposé d'appeler un de ses amis qui est moniteur avec lequel il travaille, moniteur d'auto-école. Et il m'a proposé de refaire une petite heure le lendemain pour reprendre un peu confiance en moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, après, c'était bon. Je me suis dit c'est bon. J'aime toujours conduire, ça va. J'avais pas l'air d'être trop rouillée. Et le moniteur est monté voir le directeur et lui dit c'est bon, tu peux lui laisser la voiture, ça va, c'est pas trop un danger public.
Et qu'est-ce que vous ressentiez ? C'était une victoire pour vous, tout ça ?
C'était
une lutte de.
Ouais, c'est un aboutissement de. Au final, quand on met tout bout à bout, ça fait quand même 3 ou 4 ans de projet. Donc, c'est un aboutissement, c'est le début de quelque chose d'autre, c'est la réalisation d'un rêve. Donc, déjà, ça. C'est quand même assez particulier comme sentiment. On dit « Ah, finalement, c'était possible, je l'ai fait, ça y est. »
Et il y a un message peut-être pour les internautes dans votre histoire, à travers votre histoire
c'est de jamais baisser les bras et de ne pas écouter ce qu'on nous dit. Parce que au final, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous et ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. bien sûr, je dis pas qu'il faut pas écouter les conseils à droite à gauche, hein, quand même. Mais en fait, la vraie solution, les solutions, on les a au fond de nous, en fait. Il faut juste se faire confiance, pas hésiter à se lancer, à se renseigner à droite à gauche, et puis, enfin, faut jamais baisser les bras, en fait. C'est, rien n'est facile pour personne, encore moins pour nous en situation de handicap, mais tout est possible.
Tout est possible et votre prochain objectif maintenant, c'est de trouver du travail.
C'est ça.
C'est votre objectif pour 2017. Alors le travail, votre formation, votre cursus, votre parcours, on va en parler en troisième partie d'émission. Camille Gousset, restez avec nous, vous êtes le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite du grand témoin avec Camille Gousset. Camille Gousset, toujours avec nous sur Vivre
toujours
FM.
Là.
Votre message aujourd'hui sur Vivre FM, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous n'avez pas baissé les bras quand vous avez eu envie de passer votre permis de conduire et d'acheter une voiture adaptée. Maintenant, vous roulez avec votre tuture. C'est comme ça que vous l'avez appelée.
Non, c'est la Goussette.
La Goussette.
Son petit nom, c'est la Goussette.
Ah d'accord, la Goussette.
Elle a un joli nom.
Elle a un joli nom. Et maintenant, vous n'allez pas baisser les bras concernant le travail, puisque cherchez du travail toujours.
Toujours.
Vous êtes diplômé d'une école de journalisme, vous avez fait aussi une licence d'histoire.
D'histoire, voilà.
Et vous avez fait beaucoup de stages. Quelques stages quand même.
Ouais,
Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Un stage à Vivre FM déjà.
Un stage à Vivre FM. Ouais, deux stages à Vivre FM. Un premier au tout début de mon cursus de journaliste, même avant en fait, parce que j'ai toujours voulu être journaliste.
Pourquoi? D'où cette envie?
Ça fait partie des métiers passion, hein, on va dire. Donc, je me souviens pas, j'ai pas un déclic, mais je me souviens que quand je me suis demandé quel métier j'allais faire, je me suis dit journaliste, en fait. Je pourrais pas dire, y a pas une personnalité qui m'a donné envie plus qu'un autre. En fait, c'était être en lien avec les gens. Moi, ce que j'aime faire et ce que je veux faire de ma vie, c'est être au contact des gens, c'est rendre service, enfin voilà, c'est donner des conseils, c'est pouvoir aider les gens à se sentir mieux et à mieux comprendre le monde qui les entoure, en fait. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Donc du coup, j'ai axé un peu toutes mes études autour de ce projet, de ce rêve, encore une fois. J'ai fait une licence d'histoire, comme vous disiez, et une école de journalisme à Paris. Donc après, pendant les écoles de journalisme, il fallait faire des stages. Donc j'ai multiplié un peu les stages à droite à gauche. Donc ça a toujours été quand même plus compliqué que les autres, hein, aussi, parce que il y a toujours ce... En fait, le principal souci, c'est quand même l'accessibilité. Faut pas se leurrer. D'une, il y a la méconnaissance et la peur des gens autour du handicap, mais il y a aussi cette réalité de...
C'est-à-dire que les sociétés, les bureaux, les sociétés de production ne sont pas accessibles.
Ben non, parce que quand... En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ceux qui prendraient plus facilement en stage ou en travail, c'est des petites sociétés, parce qu'ils ont des besoins réels, mais c'est pas ceux qui sont accessibles. Et les grosses sociétés qui sont évidemment TF1, M6, j'ai été faire des stages chez eux, c'est totalement neuf, c'est magnifique, voilà, c'est accessible sans problème. Mais c'est pas eux qui embauchent tout de suite et qui font confiance. Donc,
vous avez fait un stage chez TF1,
ouais.
TF1 Production, comment s'est passée cette expérience?
C'était sympa. C'était bien. J'ai insisté pour aller chez TF1 parce que c'était pas facile. Ils m'ont pas accepté tout de suite. Je pourrais pas vous dire pourquoi, hein, mais du coup, j'ai fait un mois et demi, deux mois. Ils m'avaient mis à la rédaction de une émission, je sais plus le nom de l'émission, et voilà, je vais vous avouer, c'était le stage de stagiaire, quoi, enfin, où j'ai trié des DVD. Mais du coup, je me suis dit, je suis quand même chez TF1, donc je vais peut-être pas,
Vous n'ont quand même pas fait porter les cafés, quand même?
Non, pas les cafés.
En fauteuil, tout ça.
Non, ils ont pas fait ça. Non, ils se sont dit trop dangereux, elle va se brûler. Non, j'ai trié les DVD. Mais du coup, j'en ai profité pour aller faire un peu le tour des émissions qu'il y avait, voir si je pouvais bosser pour peut-être une autre émission. Et donc, juste derrière, il y avait la rédaction de 50 Minutes Inside. Donc, j'ai été proposé mes services. Hein. J'aurais dit, écoutez, si vous avez besoin de faire du casting, recherche de témoins, enfin voilà, le métier de pré-enquête de journaliste. Et donc, ils m'ont donné 2-3 trucs à faire. J'ai suivi aussi pas mal le montage d'un sujet de 90 minutes. Avec une journaliste qui m'a accueilli pendant qu'elle faisait le montage, donc c'est la création du reportage de l'émission. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, elle m'a donné des conseils, elle m'a expliqué. Enfin voilà, j'ai pu voir comment on crée un documentaire.
Voilà, donc pas mal, beaucoup d'expérience, mais des difficultés à trouver du travail, hein, c'est ce que vous nous avez
oui,
dit.
Oui, parce que les stages, c'est toujours facile.
Les stages,
hein,
c'est facile, mais après...
On a des conventions, pour les sociétés, il n'y a pas d'engagement particulier. Après, ben, pour passer à l'action et vraiment embaucher quelqu'un, ben, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc au début, en fait, j'envoyais des candidatures et je ne précisais pas que j'étais handicapée. Enfin, pendant des années, j'ai pas précisé. Je me suis dit, ben, de toute façon, on verra. Si, enfin, je leur dirai quand je les aurai au téléphone et je leur dirai, ben, au fait, est-ce que j'ai une petite particularité, je suis en fauteuil, est-ce que c'est accessible? En fait, je voulais faire comme ça au début. Et bon, de toute façon, j'ai pas eu beaucoup de réponses et beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Donc, je dis bon. Et après, je me suis dit, je l'ai pris autrement. Je me suis dit, ça peut être un atout. Aujourd'hui, ils ont quand même une obligation d'emploi de 6% d'employeurs, de salariés handicapés. Donc je me suis dit, autant le jouer autrement, autant le mettre en avant en tant qu'une force, en tant que, voilà, je suis une particularité, j'ai une particularité, j'ai un parcours atypique, je suis quand même une personnalité différente des autres, qui est des choses à apporter. Donc maintenant, je le mets. Sur mon CV, j'ai mis que, voilà, j'étais reconnue travailleur handicapé. Et dans les lettres de motivation, je mets un petit paragraphe pour expliquer voilà, que j'ai une particularité, que je suis en fauteuil roulant, mais que voilà, ça ne m'a jamais empêché de faire mon métier comme tout le monde. Enfin, voilà, ça ne me met pas d'obstacle particulier, ou si j'en ai, je pense être la plus à même à trouver les solutions, parce que c'est l'histoire de notre vie aussi, ça. Quand on est face à un obstacle, on trouve toujours des solutions, il y a toujours des solutions qui existent. Et c'est pas l'employeur qui va trouver à ma place les solutions, c'est moi.
Et puis maintenant, vous êtes véhiculé, ça peut être un atout. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes valides qui n'ont même pas leur permis de conduire et qui sont employés. Donc vous, au moins, vous êtes véhiculé.
C'est ça.
Et vous pouvez vous déplacer pour aller en reportage.
Bah voilà, c'était l'objectif.
Alors malgré tout, vous avez maintenant un projet, une envie professionnelle.
En parallèle, du coup, comme je vois que bon, j'ai un petit peu des difficultés dans le milieu du journalisme, ça a été lié par rapport au fait que j'ai des difficultés à trouver du boulot. Je me suis dit, c'est peut-être qu'ils ont peur du handicap. Et ce qui est le cas, la plupart des gens, enfin, que ce soit dans des sociétés ou des gens qu'on rencontre au quotidien, le handicap, c'est quelque chose qui n'est pas méconnu, mais qui est mal compris.
Vous le ressentez, ça vous, la peur des gens dans leurs yeux quand ils vous rencontrent au travail, en télé, en boîte de prod?
Y a un évitement, en fait. On nous regarde sans nous regarder, on ne sait pas. Ils ne savent pas, en fait, comment... Moi, concrètement, du coup, j'ai voulu me lancer en tant que consultante handicap pour aller, justement, dédramatiser le handicap, parler du handicap, rencontrer, donc, que ce soit dans des sociétés, dans des écoles. J'aimerais bien aussi faire des interventions dans les écoles, parce que je pense que ça commence dès le plus jeune âge, cette problématique liée au handicap. Et en fait, on ressent que les gens ne savent pas comment parler, comment entrer en communication avec une personne en situation de handicap. Donc moi, quand j'arrive et que je leur dis, vous leur parlez comme à une personne, comme à n'importe qui, en fait. On n'est pas des extraterrestres, on est comme vous. Et quand moi je mets en avant aussi le fait que même moi, en tant que personne handicapée, par moment je suis mal à l'aise face à d'autres personnes en situation de handicap qui n'ont pas le même handicap que moi. Moi aussi, des fois, je ne sais pas comment me comporter face à une personne autiste, face à d'autres types de handicap que je ne connais pas. Je leur explique que c'est un sentiment humain et que, en fait, je voudrais qu'ils déculpabilisent les gens. Et dès qu'on leur dit ça, je vois sur leurs yeux un soulagement, enfin... Ah bon, ça va, c'est pas grave, en fait, je suis pas quelqu'un d'horrible. Je dis, non, vous êtes comme tout le monde, enfin, on est tous pareils, donc il faut juste qu'on se parle, qu'on se pose des questions.
Donc
en fait.
Là, votre envie maintenant, c'est d'aller dans le monde du travail, justement, pour éduquer les personnes face au handicap.
C'est ça. Et je me dis que, du coup, une fois qu'ils seront éduqués, peut-être que ça va m'ouvrir des portes aussi.
Et comment vous y prenez, du coup? Ça, vous montez votre entreprise, vous démarchez, comment ça?
Pour l'instant, en fait, j'ai été appelée, c'était en mai dernier, par quelqu'un que je connaissais, qui faisait organiser une formation sur le handicap, qui m'a demandé si je voulais venir intervenir une journée pour parler de mon parcours, Et j'ai dit oui, pas de souci. Et je sortais d'une formation où une de nos profs nous avait parlé d'un statut qui est d'être... salarié d'une entreprise de portage salarial. C'est un petit peu compliqué. En fait, on est indépendant, mais on est lié avec une entreprise qui nous fait des fiches de paye et qui gère tout l'administratif. Donc, j'ai pas créé ma société, Mais lorsque j'ai une prestation à faire, je passe par cette entreprise pour faire le bon de commande, le contrat de travail et la feuille de paye.
Et après, c'est la personne qui organise la formation qui paye.
Oui, voilà, c'est ça. Qui paye la société de portage et la société de portage me paye après. Donc voilà, donc ils prennent un petit pourcentage forcément, mais au moins on n'a pas à gérer tout l'administratif. Et si j'ai pas de prestations, j'ai rien à. Enfin voilà, je déclare pas que j'ai. Enfin, je travaille pas. Donc voilà. Pour l'instant, je pense que pour débuter, c'est plus pratique pour moi. Donc j'ai eu deux prestations jusqu'à présent, donc qui se sont très bien passées. Toujours autour, moi, les thématiques que je veux aborder, c'est la communication, l'accueil d'une personne ou d'un salarié en situation de handicap et l'accessibilité. Donc voilà, parler de l'accessibilité, pourquoi c'est important, comment la mettre en place, quel type de solution, à qui on peut s'adresser, voilà, c'est un peu tout ça.
Donc c'est un gros travail de démarchage de votre part, ouais, aussi, vous démarchez, ouais, ouais, quand même les entreprises. Mmh. Et là, vous avez envie de démarcher des grosses chaînes, TF1, M6, France Télévisions.
Ah bah oui, moi, tous ceux qui veulent organiser des journées de sensibilisation, des formations sur une ou deux ou une semaine... Moi, je suis preneuse, hein, je suis là.
Puisqu'on parle emploi et travail, Camille Gousset, depuis le 1er janvier, le dispositif d'emploi accompagné est entré en vigueur. Hein, ça avait été annoncé par François Hollande le 19 mai dernier. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? En quoi ça va changer les choses ?
Eh bien, je pense. Donc, si j'ai bien tout compris, je vous avoue, je n'ai pas suivi de près cette info, mais en fait, c'est une personne qui est dans l'entreprise... aux côtés de la personne en situation de handicap et qui aide à l'insertion et au maintien dans l'emploi de la personne handicapée.
Ils appellent ça un référent d'emploi, un référent emploi accompagné. Voilà. Et du coup, c'est peut-être un avantage, c'est plus pour la personne handicapée ou pour l'employeur ?
Je pense que c'est pour les deux. Je pense que vraiment, ça peut être bénéfique pour les deux parce que d'une part, pour l'employeur, ça va le rassurer de se dire justement, bah, comme ils ont peur, ils savent pas trop comment s'y prendre, voilà. Là, ils ont une personne référente à qui ils peuvent faire appel dès qu'ils ont un souci, voilà. Et pour la personne, donc ça peut rassurer l'employeur. Et pour la personne en situation de handicap, je pense pareil, ça va être plus facile de dire, bah, j'ai un problème, je sais pas, ça peut être un problème d'accessibilité ou peut-être une barre qui a pas été posée dans les toilettes ou je ne sais pas, enfin voilà, ça peut être plein de choses ou juste une fatigabilité plus à un moment qu'à un autre et du coup il faut peut-être revoir la durée du travail, des choses comme ça. Je pense que ouais, ça peut être une avancée, ça peut faire un peu bouger les choses aussi.
Espérons-le en tout cas. Camille Gousset, merci beaucoup d'être venue sur l'antenne de Vivre FM.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Alors si des gens veulent vous contacter sur les réseaux sociaux. Hein,
ah bah oui, réseaux sociaux, avec grand plaisir, je réponds rapidement. Et je serai ravi.
Et puis bonne route. Et
bonjour à la Goussette.
Hein. Oui, voilà, bonne route avec votre Goussette.
À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.